Controversé s'il en est, et évidemment ce soir nous sommes plusieurs à en parler, nous sommes plusieurs de toute la France même, puisque tout le monde voulait apporter son petit hommage. On a Bébert du Sud-Ouest, merci Bébert d'être là,
tu nous parleras
Canard, tu nous parleras évidemment Diego, et tu nous parleras aussi bien sûr de la disparition de Christophe Dominici, parce que nous sommes en deuil pour un paquet de raisons cette semaine. Gilbo, tu as annoncé, toi, ton idole absolue, ah ouais. Diego Armando, sur les grosses années, puisque toi, tu es un peu plus vieux que nous, donc ça correspond vraiment à ton âge d'or.
Ah ouais, j'ai l'impression de perdre un amour de jeunesse, quoi, si tu veux.
Ah, carrément. Tu en as déjà perdu pas mal dans ta vie.
Oui.
Eric, toi, tu nous rappelais tout à l'heure en off que tu avais 14 ans en 86. Et évidemment, quand on a 14 ans et qu'on voit des gestes comme ça, bah forcément, on est un peu ébahi, j'imagine. Et bah aujourd'hui, oui. Certainement triste.
Eh oui, c'est ça, hein. Complètement, complètement.
Complètement, triste. Complètement. On va quand même se faire un petit sommaire, parce que Diego n'est pas seul au monde. Donc, le sommaire sera comme à l'époque sur un petit qui aurait pu dire. Vous me dites des phrases, vous me dites si c'est Christophe Dominici, si c'est Jacques Secrétin ou si c'est Diego Armando Maradona. Alors, c'est parti. Chantez pour moi, buvez pour moi et au final, ne m'oubliez jamais, je vous en prie.
El pibe de oro, Diego Armando.
Oui, ouais, bravo. Ouais, c'est un point pour mon Gilbo.
Il n'est pas trop Secrétin faire ça, moi.
Quelle étrange sensation de jouer au tennis dans son salon.
Ah, Secrétin.
Ouais, Eric, tu es un très bon joueur, Eric, ça fait un partout. On continue. Sans moi, le foot n'existerait même plus.
Secrétaire.
Dominici.
Alors évidemment, hein, on peut faire plein de petites blagues derrière. Bébert, c'est vraiment une réponse de Secrétin. Enfin bref. L'alcool, non. L'eau ferrugineuse, oui.
Ce Coluche.
Ouais, non, c'était même pas Coluche à l'époque. Quel rapport ça peut avoir avec une de nos trois personnalités? Aucune idée, une publicité, voilà. Une publicité.
Ah, vu l'époque,
oui,
ça
c'est
peut être Jacques Secrétin.
Non, c'est Saint-Yor, Bébert, tout à fait, c'est Saint-Yor. Rapproche-toi de ton micro, on t'entend très moyennement. Ouais, c'est Dominici, tout à fait. Hijo de puta, de madre de Dios, de gol, la gol.
Diego Armando Maradona.
Bon, si tu te débrouilles bien, Jonah, tu n'as pas à l'affronter, tu feintes droite et gauche et tu y vas, hein.
Bernard Laporte.
Évidemment, on l'a, Christophe Dominici, grosse perte de la semaine également. Et avec un nom comme ça, soit je finissais en vedette, soit en souffre-douleur de toute une génération.
Secrétin, bien sûr.
Oui, Secrétin, bien sûr. Vous avez le sommaire de l'émission. Le sommaire est dramatique puisque c'est trois décès de trois personnalités du sport français. Et on prendra évidemment le temps largement d'en parler. Et on commence par... toutes les télés, évidemment, on ne va pas être très original, mais Diego Maradona. Gilbo, tu nous disais tout à l'heure que tu étais fan absolu. Pas moi, pour le coup, mais on va t'en voir.
C'est clairement ma jeunesse des années 80, enfin, et le génie absolu, le meilleur joueur que j'ai jamais vu sur un terrain. Alors, effectivement, il y avait Platini, ainsi de suite. Mais le génie absolu, et au-delà, la personnalité tout au long de sa carrière, qui est évidemment controversée, mais le culte qu'il peut avoir, et ainsi de suite, qui est vraiment extraordinaire, avec des films qui ont été faits sur lui de Costa Rica. C'est-à-dire que là, à la limite, il n'a rien à faire dans ce sport épique. On voit largement au-delà d'une perte sportive.
Et c'est peut-être un petit peu ça le problème pour les néophytes autour des micros. Là, n'hésitez pas à lever la main quand vous voulez prendre la parole. C'est un petit peu ça que moi, je reproche justement, Gibo, c'est aller au-delà du foot. Et alors, il y en a qui le font très bien de manière positive. Je suis désolé, moi, mais Maradona, dans une époque MeToo, dans une époque où la drogue, quand même, ça pose quelques petits soucis, à une époque où on te parle de mafia, de machin, de trucs, on te sort une idole comme ça qui représente absolument tout ce côté noir, ce côté négatif. Moi, je ne suis pas sûr qu'il faille faire des processions, qu'il faille 3 jours de deuil dans un pays, qu'il faille faire une ville en pleurs à Naples.
On ne te sort pas une idole, c'est une idole. Le mec, il représente le peuple. C'est pas un truc qu'on nous impose, justement. C'est complètement naturel, c'est complètement spontané. Ouais. C'est le représentant du peuple. C'est le représentant, son histoire est extraordinaire. Il est resté du peuple.
D'accord, mais il n'y a pas une femme. Il n'y a pas une femme là qui va te dire, je te dis, dans toute cette période MeToo et tout ce qu'on veut, il n'y a pas une femme qui va te dire que ce type qui a quand même un enfant illégitime, que ce type qui est allé fricoter à droite à gauche toute sa carrière, que ce type qui a laissé tomber sa famille, que ce type machin, il n'y a pas une femme qui va gueuler, qui va dire que maintenant, c'est peut-être pas une idole absolue, quoi. Comme un type drogué comme pas deux, c'est peut-être pas une idole absolue.
Mais je vois pas le rapport.
Je vois le rapport, Gilbo. On est en train de t'enfoncer un mec. On a l'impression, ouais, comme il dit lui-même, il dit Dieu est mort. Dieu, c'est pas ça, quoi. Un Dieu, c'est sans tâche. Un Dieu, c'est parfait. Un Dieu, c'est machin. Lui, on est très, très loin d'être sans tâche.
Tu es en train de nous dire que Dieu, en fait, Dieu était juste humain, quoi. C'est tout. Tu es en train de nous dire.
Ouais, mais là on va au-delà. Là on va au-delà. Là on est fasciné par une déchéance. Moi je suis pas. Prends quand t'es gamin en 86, prends la fascination que t'as. Eric c'est pareil. Prenez la fascination que vous avez pour le joueur. Soit très certainement, moi j'étais pas assez devant la télé à ce moment-là. Mais ça je peux tout à fait comprendre que vous soyez toujours fan d'un mec qui en tribune est obèse, drogué, tout ce que vous voulez, qui passe son temps à faire des doigts d'honneur et à injurier la planète entière, moi, ça me pose...
C'est un bel hommage pour l'instant, super.
Hommage controversé, Bébert.
Non, mais j'ai juste une chose à dire. Concrètement, on est tous fans du footballeur. Après, on va pas aller défendre les valeurs de Maradona par rapport à la drogue, par rapport à son accession à la mafia, par rapport à ce qui faisait partie de la mafia, par rapport... au fait qu'effectivement, il a laissé tomber son enfant. Par rapport à tout ça, on ne va surtout pas le défendre. Il n'empêche que c'est devenu un dieu vivant grâce au football. Donc après, les gens lui ont tout pardonné. C'était un dieu vivant. Voilà, c'est tout. Il est parti de rien. C'est devenu le meilleur joueur de la planète. Voilà. Mais après, quoi qu'il arrive, de toute façon, tous les grands hommes ont leur part d'ombre. On a eu un Mitterrand en France qui a fait n'importe quoi dans sa vie privée. Et il n'empêche que dans l'histoire, ça reste, quoi qu'il arrive, un grand homme.
Ok, donc on a la première comparaison. Voilà l'originalité de Sport Equipe et de l'autre radio entre Mitterrand et Diego Maradona. Merci, mon Bébert.
Quoi qu'il arrive, les grands hommes, ils ont leur part d'ombre. Sauf que lui, c'était même pas une part d'ombre parce que sa part d'ombre, le monde, il en faisait l'attache. C'est ça qui est ridicule.
C'est pour ça que ce crétin, tout le monde s'en fout. Hein. Il n'a jamais trompé sa femme.
On ne sait pas. Mon Fred, on a retrouvé Fredo la science, les gars. L'émission peut démarrer.
Ouais, bonjour à tous. Désolé pour le problème technique. Je prends la conversation en cours, mais là, j'entends des choses qui me rendent dingue. Donc, c'est pour ça que je demande la parole. Par rapport à ce que tu disais, Benoît, les gens, ils ne sont pas fans du petit gros qui insulte tout le monde, etc. Les gens, quand ils voient Maradona, ils pensent qu'au joueur avec le maillot ciel et blanc, qu'au formidable footballeur que c'était. Et du coup, on lui pardonne tout. Mais ce qu'ils retiennent, les gens, c'est surtout pas ça. C'est pas le côté obésité morbide, etc. C'était le joueur fabuleux qu'a fait rêver tout un peuple.
Mais le joueur fabuleux, Fred, on s'en souvient même plus, nous. Enfin, moi, ma génération, je suis de 78. Alors, les mecs qui sont nés après 80, à part regarder des vieilles cassettes, on sait même plus qui c'est Maradona. On connaît que la légende Maradona à travers des scènes cultes, justement, parce qu'il est dans une déchéance catastrophique. Ouais, mais... Et j'ai entendu Estelle Denis, moi, dans la semaine, sur l'équipe d'Estelle, qui était en train de défendre quand même un truc fabuleux. Elle défendait la bagarre générale lors de la Coupe du Roi. Alors, tu vas peut-être me dire l'année, toi, peut-être 83 ou 84. Ouais, quand ouais. il est... quand il est à Barcelone. Elle est en train de me défendre ça. Tu vois Maradona, il est en train de péter la gueule. Et sauvagement, il est en train de péter la gueule à un paquet de mecs. Et elle est en train de défendre ça comme quoi le type est formidable. Alors moi, je veux bien qu'on pardonne aux idoles pas mal de petites choses. Mais putain, là, ça va loin quand même.
Non, mais ouais, mais faut remettre dans le contexte. Hein. Tu te souviens juste d'une ou deux images où tu le vois effectivement mettre un ou deux coups de safeton qui sont pas super top. Mais il se fait agresser durant toute la saison. Il se fait matraquer. Maintenant, on ferait un vingtième de ça. Un joueur comme Messi ou Ronaldo, le mec, il prendrait 6 mois de suspension. Ouais. C'était un autre contexte. Et au contraire, c'était tout le peuple était derrière lui parce qu'il se faisait agresser. Mais faut remettre dans le contexte. Dans les années 80, l'Argentin qui venait défier le football européen, il n'était pas protégé, il était décrié, il était moqué. Donc, c'est vraiment la révolte du petit peuple, là. C'est pour ça que, enfin, Dimeco, c'était un poète par rapport au gars de la Real Sociedad à l'époque, quoi. Donc, c'est un autre contexte.
Il faut voir l'agression qu'il subit. J'ai revu hier, mais c'est un truc de fou. Le mec, ils l'ont démoli, quoi. C'est pas possible. Après, je laisse parler, j'ai encore des choses à dire, je laisse parler.
Non, mais moi, j'ai vu comme vous les images, et là, ils vous en remontrent du foot de cette époque-là. C'est vrai que c'est… Putain, t'as l'impression que c'est pire que du rugby. Et je trouve très, très dur. Donc, pour ces génies du foot, je trouve ça très, très dur. Mais là, je vous dis que la nana, elle est en train de vous défendre le Maradona que tu vois cash, filmé par toutes les caméras du monde, en train de sabater non-stop. Et ça dure 4, 5, 6 minutes. On ne peut pas défendre ça. On n'a pas le droit de défendre ça. Elle est sur une chaîne. Si ça la fait marrer les bad boys, qu'elle soit folle devant son écran, qu'elle reste folle devant son écran, mais pas devant pas la France entière, parce que tout le monde ne regarde pas l'équipe non plus. Mais moi, je trouve ça dommage d'aller défendre ça, quoi. Fred.
Ouais, mais il faut remettre dans le contexte. Enfin, ça fait partie de l'histoire et de la magie du truc. Mais c'est vraiment le petit peuple qui se révolte. Et encore une fois, pour remettre le joueur dans sa dimension, c'est un joueur qui, à 17 ans, pouvait jouer en Coupe du Monde 78, il aurait quasiment pu la faire avec l'Argentine. Faut pas oublier que déjà à l'époque, lui, c'est un de ses moteurs, mais c'est un joueur qui est déjà ultra connu et reconnu. Déjà en 78, où l'Argentine est championne du monde. Derrière, au début des années 80, quand il déboule sur le continent européen, il y en a très peu de Sud-Américains en Europe. Et donc, il s'est effectivement matraqué à Barcelone et tout, alors que c'est un joueur fabuleux. Et ce qui fait monter encore plus en popularité, c'est quand il va jouer en Italie, il ne faut pas oublier que quand il va jouer à Naples, c'est un petit peu comme si Messi venait signer à Dijon actuellement, quoi. Il est dans une équipe qui fait rien. Ouais. Et le gars, il va relever le club. En face de lui, il a l'autre meilleur joueur du monde, qui est Platini. Et il arrive à mener son équipe. Alors, dans un contexte aussi particulier, parce qu'effectivement, au niveau arbitrage, etc., il y avait beaucoup, beaucoup de choses. Mais, je veux dire, c'est un petit peu comme si, voilà, Messi décidait de signer à Dijon pour que Dijon finisse devant le Paris Saint-Germain, quoi. C'est fabuleux, quoi. Je veux dire, c'est fabuleux.
Ce qu'il y a, il a aussi toujours représenté les équipes du peuple. Il a toujours, il n'a jamais renié ses origines. Et ça, il n'y a pas beaucoup de sportifs qui peuvent le prétendre. Il a fait Boca Junior, il a été énorme. Il a fait gagner Boca. C'est énorme quand tu vois la Bomba Arena, là, quand tu t'as encore récemment.
Oui, d'accord.
Bombonera plutôt.
Il n'a pas renié. Il y a des mecs, je regardais, enfin, je digresse, mais un reportage sur O.J. Simpson la dernière fois sur. Arte, c'est passionnant. Le mec, il dit, je suis pas noir, je suis blanc. Ben non, tu vois, il y a des mecs qui sont partis en rue. Lui, il n'a jamais renié ça.
Il ne s'est jamais empêché d'étaler du pognon. Son mariage avait fait scandale à coup de, je sais plus combien c'était les sommes à l'époque, 200 millions de machins. Et nous, on est fans, on est là, nous, les petits machins, avec nos 1500 euros, et on est en train de se dire, putain, ces mecs sont fabuleux. Ben, le mec, c'est juste un débilos avec un pied en or. Et ben voilà, et ça te donne…
Une main en or.
Ouais, et une main en or, parce que ça, évidemment, on parlait comme tout le monde.
Évidemment.
Mais nous, c'est quand même génial. qu'un Titi Henry, on est prêt à le pendre sur la place publique parce que le mec a osé mettre une main qui ne marque pas le but, hein, qui donne juste la passe D, et alors que l'autre, c'est le dieu de toute la planète foot, ouais, mais... alors qu'il le fait une main cache que bah, l'arbitre ne voit pas, mais en tout cas, tout le monde sait qu'il a fait main. Et c'est dieu, le type. Bah, moi, mais je suis désolé, ça, je ne peux pas avaler ça, moi.
Ouais, mais Benoît, tu arrives, tout, c'est bizarre, parce que toi qui es cultivé, il faut remettre le contexte. Si on sortait d'une guerre France-Irlande, peut-être qu'on aurait été plus derrière Thierry Henry. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est le contexte. Il y a un vrai contexte géopolitique au sort de la guerre des Malouines où les Argentins ont été bafoués, etc. Donc, il y a un vrai sentiment de revanche. Et le gars, là, c'est vraiment le tout petit gars du peuple. Il n'y a pas plus bas au niveau échelle sociale. Donc, c'est ça qui est faible. Alors, forcément, il a des travers parce qu'il n'a pas d'éducation, parce que, etc. Mais c'est ça qui le rend encore plus humain. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec le terme Dieu, parce que ce n'est pas Dieu, c'est juste un humain qui a grimpé l'échelle. C'est pratiquement, enfin, je veux dire, c'est une story fabuleuse. Et forcément, il est travers, et c'est ça qui le rend génial aussi. C'est que s'il était tout lisse, on ne l'aimerait pas. Il y a tout le mystère qui va avec.
C'est ça le problème. Je te laisse la parole, Gilbo.
Ouais, parce que là, dans le match.
Je te laisse la parole, excuse-moi, je te réponds juste, Fred. C'est que ta guerre des Malouines, j'en ai bien conscience. Donc, que l'Argentine soit folle de joie, que l'Argentine en fasse un dieu, moi, je veux bien. Mais on a tous fait un dieu de Maradona alors qu'on a tous vu cette main. Et
mais attends, Benoît. Eh, Benoît, ouais. La main, le match contre l'Angleterre, il faut le prendre dans sa globalité. Là, on voit tout le génie de Maradona. D'abord, la main, allez. C'est pas une main cachée de Thierry Henry. L'autre, c'est une main génie, il faut quand même le dire. Et derrière, le mec, il peut se permettre de marquer un but d'anthologie. Donc, ça efface tout, si tu veux. C'est pas comme le mec qui va après, on siffle la fin du match. Donc là, on voit on voit son génie, oui. Et on voit aussi son côté sombre. Donc, c'est exceptionnel, ce match-là. C'est exceptionnel. Oui. Donc, c'est vraiment…
Ouais, puis c'est vraiment un pré-coup, parce que tu dis, on en sens, c'est pas vrai. Dans les années 80, les Européens, ils sont pro-Platini. Ils sont pro-Allemagne. Et c'est juste, c'est un autre football, le football sud-américain, qui est incarné par Maradona et par les Brésiliens. Donc en gros, il y a trois têtes au milieu des années 80. Il y a Maradona, il y a pour Maradona, Zico en Amérique du Sud, et puis il y a Platini sur le continent européen, avec les Français qui jouent un football qui fait rêver, et les Allemands qui jouent un football très terre à terre mais qui gagne. Et il y a une vraie confrontation, une vraie opposition qu'on n'a plus maintenant. Et c'est ça qui fait la beauté. Et c'est pour ça qu'au milieu des années 80, pour les Européens, Maradona, il n'est pas adoré. Tout le monde sait que c'est un super joueur. Mais je veux dire, en France, on est à fond derrière Platini, qui est notre meilleur joueur du monde.
Ouais, on se régale avec Maradona quand même.
Bien sûr. Mais ce qui est fabuleux, c'est l'opposition de style aussi. Parce que Platini, c'est l'élégance, il fait jouer le collectif. Maradona, c'est le soliste qui transcende un peuple. Donc c'est ça qui était chouette aussi.
Ok, mais alors, justement, par rapport à ce que tu dis là, évidemment, tout ce qu'on est en train de revoir en ce moment, tout ce que les chaînes nous passent, c'est ce fameux but contre l'Angleterre où il part tout seul. Ok, il est somptueux. On nous montre des buts de génie. D'accord. Moi, j'aimerais bien voir un petit peu les matchs dans la globalité, voir qu'est-ce qu'il fait. Est-ce que sur 90 minutes, le mec régale ? Est-ce que pendant 90 minutes, il fait comme Neymar, c'est-à-dire qu'il touche 35 ballons, il en perd 33 ?
Non.
Moi j'aimerais bien savoir, j'ai pas assez regardé à l'époque, donc je peux pas me prononcer.
Mais on
nous montre que des images exceptionnelles, donc je ne dis pas du tout que le mec soit super doué, mais est-ce que vraiment sur 90 minutes le mec est si doué que ça?
Et tu pètes un câble, hein, c'est Yvon Leroux était meilleur, je pense. Ouais. J'ai regardé tous les matchs avec Yvon Leroux, il était nettement meilleur.
Moi, je te compare par rapport à Neymar, où on t'en fait des tonnes sur Neymar. Bah, les matchs de Neymar, je les vois, contrairement à ceux de Maradona. C'est vrai, je ne peux pas témoigner. Mais ceux de Neymar, je les vois. Et bien, Neymar, jamais, moi, je vais t'encenser un mec qui perd 33 ballons sur 35. Moi, ça m'emmerde des types comme ça, moi.
Fred. Mais il fait gagner.
C'est des personnes incomparables, parce que tu parles de Neymar, tout le monde voit ses roulés-boulés, le mec qui chiale et tout. Maradona, c'est un meneur d'hommes. Je veux dire, le gars, il d'une équipe de branque, hein, Naples, c'est quand même pas une grosse équipe à la base, ils t'ont fait une super équipe. Et le gars, il te fait briller des joueurs. Donc, c'est un vrai meneur d'hommes. Steven, tu sais qu'il va tirer son équipe vers le haut. Tous les reproches qu'on fait à Neymar, qu'on fait à Messi. Messi, ça tire pas l'équipe vers le haut. Le mec, c'est un fabuleux soliste, mais il marche, il chiale et tout. Là, t'as un gars, il transcende ses coéquipiers. Donc,
il a gagné.
Tous ses coéquipiers te diront que le personnage était peut-être incorrect, etc. Mais il leur a permis de briller parce qu'ils ont cru en ce joueur-là. Et quand tu vois, tu n'as jamais vu des publics, tu n'as jamais vu un peuple derrière un joueur comme ça, quoi.
Clairement.
Ils savent qu'il va se passer quelque chose parce que le gars, il a la niaque en plus. Alors,
Fred, moi qui suis, pour le coup, qui ai toujours été joueur de devoir en numéro 6 à travailler dans l'ombre, moi, quand on me dit, parce que c'est pareil, hein, tout ça, je n'ai pas vu, mais quand on me dit qu'à l'échauffement des matchs, Lotte, limite, il restait dans le vestiaire pendant que les autres allaient s'échauffer, qu'il faisait 3-4 jongles pendant que les autres allaient s'enquiller des longueurs et des montées de genoux et les conneries habituelles d'échauffement. Ben, excuse-moi, moi j'irai le voir, je dirais mon coco, tout génie que tu sois, ben, viens t'échauffer avec nous.
Non, parce
que
ça, Benoît, te sport individuel. Elle te compare pas à Diego quand même. Respecte-le.
Moi aussi, je suis divin.
Je compare à Diego.
Je pense qu'à l'époque, c'est Diego qui serait allé le voir en me disant ouais, Benoît. Ouais. Tu bosses ta technique parce que tu as deux pieds carrés, là, va falloir te secouer, mon garçon.
Et en plus, tu as une grande gueule.
Ouais, donc, tu vas la mettre en veilleuse.
Non, ça me pose des soucis.
On gagnera des Coupes du Monde.
Non, si tu veux, moi, c'est ça que je reproche à tous nos sportifs actuels, que ce soit Messi, Ronaldo, etc., où les gens ne peuvent pas s'identifier parce que ce n'est pas des meneurs, c'est des super solistes. C'est des joueurs super complets, il n'y a pas photo, mais il n'y a pas une aura, tu n'as pas un peuple derrière, quoi. Alors peut-être un peu Ronaldo avec l'équipe du Portugal, où les Portugais sont vraiment transcendés quand lui est là, mais c'est tout. Je veux dire, tu vois l'impact de Messi en Argentine, il est minime, quoi. Alors qu'en termes de talent, le mec est fabuleux, mais l'autre, il incarne vraiment son pays, quoi. Et jamais tu retrouveras ça, c'est ça qui est dingue.
Ouais. Ben moi, je suis pas sûr que pour incarner mon drapeau tricolore et mon pays, j'aimerais avoir un drogué, j'aimerais avoir un mec, un père, un machin, j'aimerais avoir tout ça. Moi, je suis pas tout à fait d'accord que l'idole de mon peuple, ce soit ça, moi.
Attends, alors là, on touche un sujet, est-ce qu'il faut séparer, qu'on trouve avec les artistes, est-ce qu'il faut séparer l'œuvre de l'homme? Donc, ça veut dire que Céline est considérée comme le plus grand écrivain français du... Voilà, bon ben voilà, là on touche à l'artiste, tu viens de nous le prouver.
Non, puis c'est après sa carrière, ça, c'est après. C'est pas au moment où le firmament.
Mais tu parles de Céline, ok, Céline a ça, mais ça ne remet pas en cause son talent d'écrivain. Maradona, ça ne remet pas en cause son talent de footballeur. Je te dis, est-ce qu'on a droit de s'en servir comme idole de tout un peuple? Ben moi, nous on ne se sert pas de Céline comme idole de tout un peuple.
Victor Hugo, c'est pareil.
Il a la digression.
C'est pas très controversé, Victor Hugo.
La digression est pas bonne parce que Maradona, c'est sa fin de carrière. Mais quand il est au firmament, personne ne parle de la coke ou etc. ou des nanas. Enfin, tout le monde parle de footballeur.
Bah, Fred, tu plaisantes. Bah, d'accord, tout le monde parle que de ça. Mais tout le monde se voile la face. J'imagine qu'ils savent tous très bien que l'autre, il est avec la mafia, il est drogué et il a un gamin qu'il ne reconnaît pas. Bah, excusez-moi, comme tête de gondole d'un pays, moi ça me fait un peu mal quand même.
Mais après, Benoît, c'est après. Je veux dire, quand il arrive à Naples, tout le monde soupçonne qu'il y a la mafia pour financer, mais au point de départ, personne, je veux dire, quand il joue à Barcelone, personne ne lui fait le moindre reproche sur de la coke ou etc. C'est un joueur fabuleux.
Barcelona. Ouais, bien sûr. Est-ce qu'on peut exister aussi tout simplement à côté de mecs comme ça, tu vois, quand t'es partenaire, alors évidemment, t'es un pauvre petit Napolitain, donc t'aurais jamais gagné si Maradona n'était pas venu, mais derrière, jamais on parlera de toi parce que l'autre, il te bouffe toute la lumière. Est-ce qu'on peut exister à côté de mecs comme ça, Fred?
Bien sûr. La Coupe du Monde 86, il la gagne parce que Maradona est fabuleux, mais parce que Burruchaga est fabuleux. Je veux dire, le deuxième meilleur joueur du mondial, c'est Burruchaga qui joue à Nantes et qui a été le meilleur joueur qui ait jamais eu à Nantes. Je veux dire, Burruchaga, c'est lui qui marque le but de la victoire, hein, Jorge Burruchaga, et qui est fabuleux. Donc oui, tu peux exister. Alors peut-être pas médiatiquement, mais footballistiquement parlant, tu existes. Tu existes parce que c'était ça sa force aussi. Il y a des mecs comme Caniggia qui ont fait des carrières en équipe nationale, qui n'étaient pas des super grands joueurs, qui ont pu exister grâce à Maradona. Après, médiatiquement, bon bah effectivement. Mais je veux dire, j'irais, ça a pu exister à côté de Platini. Des grands joueurs ont coexisté avec Maradona.
Ah ouais, j'irais, tu vois, je le vois indépendant de Platini, moi. Tu vois, alors que toute l'ère Maradona, elle est très clairement subordonnée à son génie, à ce type-là. Et tu vois, si moi, je ne suis pas sûr d'être tellement capable de laisser toute la lumière à un type. Enfin, je ne sais pas. Je l'ai dit souvent sur Sport Epic, mais ça reste, le foot, ça reste un sport collectif. Quoi. Mmh. Et on ne peut pas faire d'un joueur simplement le… Enfin, si, l'idole de l'équipe, oui, mais le maître à penser et le type qui a donné la Coupe du Monde, bah, je trouve que c'est beaucoup, moi. C'est beaucoup. Ça fait beaucoup. C'est trop dur pour moi, en tout cas. Messieurs.
Il va pas te voir, tu vois. Est-ce que tu vois ton. Je sais plus comment il s'appelle. Eric, tu vois ?
Ouais, moi, je voulais dire un truc quand même. C'est parmi tout ce qu'on a pu entendre comme hommage. On a entendu beaucoup de. Voilà, c'était un joueur exceptionnel, etc. Il a marqué le football, c'était un dieu. Il y a quand même un de ses partenaires qui est Calderon qui a dit je vais pas parler de ta vie, je vais juste te remercier pour ce que tu as fait de la mienne. Voilà. Alors, je pense que ça répond un peu à ta question sur est-ce qu'on peut exister à côté de Maradona.
Est-ce que tu as droit de dire.
C'était là. Est-ce qu'il a le droit de dire autre chose ?
Est-ce que tu as le droit de dire autre chose ? Est-ce qu'un seul
mec aussi
a
rien
joué
dire.
Avec Maradona, est-ce qu'un seul mec qui a été napolitain a le droit de dire une toute petite chose ? Et même maintenant, si tu mets le maillot bleu de Naples, est-ce que tu as le droit de dire la plus petite phrase négative sur ce type ? Ben non, c'est impossible. Et ça t'enlève toute lucidité et c'est peut-être le souci des idoles.
Mais il n'y a pas besoin de dire autre chose. C'est ça que tu ne comprends pas. C'est qu'il fait l'unanimité, point.
Ouais, bah ça s'appelle l'obscurantisme. Ça, on l'a vécu, c'était en 1300. Voilà, on n'avait pas le droit de dire autre chose que Dieu est merveilleux. Maintenant, on a le droit. T'as un mec shooté, t'as un mec alcoolo,
Je pense que t'es jaloux.
Pour faire une comparaison, en France, on avait une grande idole qui est morte il y a quelques années, c'est Johnny Hallyday. Et bon, voilà, il avait aussi une vie artistique formidable, mais après, il a une vie de déchéance à côté. Mais ce n'est pas pour autant que tout le monde ne l'a pas encensé. Voilà,
C'est pas mal.
Ça n'a rien à voir quand même.
On va couper, Jean-Jean.
Ça n'a rien à voir, mais.
On va faire une petite coupure musicale. Si mon jeu allait bon, il aura trouvé la chanson de Diego pendant le Mondial 86. Ça va vous booster, ça va changer de votre jazz habituel. À tout à l'heure, messieurs, dames, toujours sur Sport Epic en ce dimanche matin. Grande Diego !
Fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión. Enfrentas la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal con experiencia, sedienta ambición de llegar de cebollita. Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. Curiosa debilidad, si Jesús tropezó, porque él no habría de hacerlo. La fama le presentó una blanca mujer de misterioso sabor y prohibido placer en su ardua deseo. Dios sanó otra vez, involucrando su vida. Y es un partido que un día el Diego está por ganar. ¿A poco que debutó? We'll be right back.
Et oui, c'est toujours nous, c'est toujours Sport Épique. Évidemment, ça s'enflamme pas mal dans vos micros. Bon dimanche matin à tous. On est toujours, bien sûr, sur Diego. On s'apesantira aussi sur les autres décès, puisque l'époque veut ça en ce moment. Mais pendant cette petite coupure, on a continué avec nos chers amis à s'enflammer. Moi, je ne suis pas du tout sûr que Vox Populi, Vox Dei, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas le peuple qui dirige. À un moment aussi, il faudrait peut-être se rendre compte qu'il y a autre chose que la passion, qu'il y a autre chose que la divination. Il y a aussi des choses plus essentielles que ça, que vénérer un type comme ça. Moi, ça continue de me choquer. Et j'ai envie de vous poser une question, messieurs. Qu'est-ce qu'une légende? Qu'est-ce qui forge une légende? Comment se rappelle-t-on d'un type? Comment se fait-ce qu'un mec devienne à ce point-là l'idole de tout un peuple? Comment est-ce qu'on forge ça? Ma question n'est pas claire.
Si.
Ouais, Fred, excuse-moi parce que je ne vois pas vraiment l'écran, en fait. Donc, mettez bien la main devant votre corps, ouais. S'il vous plaît.
Simplement, c'est quelqu'un qui t'a fait rêver, quoi. C'est ça qui est beau. C'est que quelqu'un qui t'a fait rêver petit et qui reste en toi. Donc, t'en as quelques-uns dans le sport, t'en as quelques-uns, ça peut être dans la politique, dans la vie de tous les jours. T'en as quelques-uns qui t'ont touché, ça reste. Et tu leur pardonnes certaines choses parce que t'as eu du bien, du bonheur. Ça s'explique pas. Voilà, c'est en toi.
Gilles Beau.
Ouais, pour revenir à mon sujet préféré, Diego. Alors, qu'est-ce qu'une idole? Mais en fait, de ce type-là, j'ai pas d'autres exemples de cette ampleur. Ça n'existe pas, en fait. J'en connais pas.
Ah ouais.
Au-delà, dans le sport, j'en connais pas.
Ouais, je sais pas, tu vois, je pense que Fred qui est en train de lever la main, je pense que son Roger, il est en train
là,
de.
Voilà. Je suis en train de m'entraîner du doigt.
Je pense que pour un tennisman, tu peux faire de Roger.
Si, je vais te dire, Gilles, j'ai discuté ces deux derniers jours sur les personnes, les personnages du sport qui ont eu cet impact. Donc, au football, effectivement, Maradona a eu cet impact sur son peuple. Au niveau basket, Jordan aura eu un impact planétaire phénoménal.
Jordan, c'est un excellent exemple.
Voilà. Et le seul qui l'incarne, par exemple, dans un sport actuel, c'est encore Federer au niveau du tennis. C'est le seul qui fait déplacer des populations entières. Et quand lui va s'arrêter au niveau du tennis, ça n'existera plus. Ça n'existera plus. C'est un des derniers.
Qui a levé la main après.
Concrètement.
Non, moi dans le même style. Dans le même style d'idole, on avait Pelé à l'époque. À l'époque, Pelé, c'était quand même une idole au Brésil. Sauf que derrière, le mec, il n'avait pas une grande gueule. Le mec, il n'avait pas une vie dissolue. Donc, il a fait beaucoup moins parler de lui. Mais à l'époque, Pelé, il gagnait quand même 3 Coupes du Monde. Quoi. Alors, on te dira, il n'était pas tout seul. Certes, il n'était pas tout seul. Il avait certainement une meilleure équipe que Maradona, si on veut comparer. Mais il gagne 3 Coupes du Monde, sauf que derrière, ben le gars, ben il ne fait pas n'importe quoi de sa vie.
Il a une vie normale.
Puis, ouais, il a beaucoup moins ce côté humain à faire des
bêtises. C'est Gilles Beau et c'est Fred après.
Non, mais là, vous parlez sport. Pelé, clairement, c'était le bon noir, c'est tout. Le mec, extra sportivement, ce qui était. Et ça n'a rien à voir.
Pelé, c'est très simple. Pelé, c'est très simple. Il n'y a pas d'image. C'est toute la difficulté. Si Pelé, il y a des images, Pelé, c'est fabuleux parce que l'histoire, elle est aussi fabuleuse. La Coupe du Monde à 17 ans, les 3 Coupes du Monde. Mais il n'a pas l'image. Il a pas. Il manque de chance pour lui. Alors, effectivement, il est plus lisse comme personnage. Mais il n'y a pas d'image.
C'est l'homme de la FIFA, c'est l'homme de la pub.
Et alors, il n'y a pas d'image.
Est-ce que c'est grave d'être quelqu'un de bien? Est-ce que tu es forcément une idole? C'est forcément une oreille coupée? Est-ce que c'est forcément des types complètement des nirvana complètement drogués? Est-ce qu'on ne peut pas être aussi une idole, tout simplement?
La preuve, Federer, c'est un mec qui est super propre, qui est marié avec la même nana, qui a 4 gamins, qui est tout gentil et tout. Et le mec, il fait rêver des millions de personnes. C'est juste, il y a l'image. Pour Pelé, c'est l'image. S'il avait eu l'image, Pelé, il serait au firmament. Il l'est pour tous les gens qui ont connu son époque. Mais effectivement, pour les jeunes, il n'y a pas d'image.
Par contre, je ne sais pas. Oui, Gilbo, excuse-moi, tu voulais rebondir.
Ouais, tu avais aussi. Alors, un exemple contre-exemple qui est intéressant, c'est Tiger Woods, qui a aussi sa part d'ombre, Mais par contre, tu n'as jamais non plus revendiqué quoi que ce soit sur son sur le côté.
Mais non, c'est
ben non. Voilà. Mais ouais. Qui est un excellent joueur et qui a une vie privée dévastée, mais qui n'est pas une idole pour autant. Parce qu'il,
parce qu'il fait un sport de nanti. C'est
quand même un mythe de son sport, Bébert.
Oui, Ben, tu parlais d'oreilles coupées. Mike Tyson, dans son sport.
Ouais. Et j'allais.
La boxe, tout ouais. Le monde te parle de Mike Tyson. Il y a des gens qui ne l'ont jamais vu boxer. Il y a des gens de 20 ans, tu leur parles de la boxe, ils te disent Mike Tyson.
Exactement. Voilà. Ouais, mais... Exactement. Exactement. Et le mec a une vie de timbré. Le mec a une vie, alors encore 10 fois plus pire que Maradona. Ouais. Mais ça reste l'idole absolue aussi, Mike Tyson.
Ouais, ouais. Tyson, il y a des images. Il y a des images de petits jeunes, ils tapent sur n'importe quel moteur de recherche. Ils voient les 10 plus beaux KO de Tyson. Ils voient la bête que c'était.
Eric ?
Ben, par exemple, en Formule 1, Ayrton Senna, hein, qui a été élevé au rang de mythe. Mais bon.
Ah, mais bien sûr, Fred, tu peux pas faire avec la main, bien sûr.
Non, je suis d'accord, parce qu'en plus, la fin est mythique.
En plus,
Et d'ailleurs, alors si dans les sports mécaniques, tu vois, il y en a un qui ferait bien d'arrêter, c'est Rossi. Parce qu'il ne faut pas oublier que Valentino Rossi, cette année, il a une moto qui lui est passée à 1 cm du casque. Et il aurait pu y rester. Et je pense que ça, c'est un signe aussi, il faut qu'il arrête.
Est-ce que ça fait pas partie de la légende quand tu claques aussi sur ta moto?
L'exemple de Senna est très beau aussi parce que Senna, ça correspond aussi à un moment où il est plus dedans au niveau compétition et tu sens le truc monter. Alors c'est facile de le dire après, mais tu sens le truc. C'est l'année où il est au fond de la mine. Il regrette même ses courses épiques avec Prost et tout. Tu sens que le gars, il est pas bien dans la tronche.
Oui, mais le seul qui remplit toutes les cases, parce que c'est le sport le plus populaire du monde, la Formule 1, c'est pareil, c'est un sport
de
monde.
C'est vrai. C'est
Diego
Maradona. Par rapport à ce que disait Bébert, Gilbert, tu parles Jordan. Ouais. C'est quand même un mythe absolu de chez absolu aussi. Hein. Et peut-être moins de phrases. On va peut-être laisser ce sujet. Je vais peut-être une dernière fois jeter un pavé dans la mare. J'ai revu donc sur les images, alors c'est toujours pareil, on ne nous montre pas tous les matchs, mais moi je trouve le football, et comme je l'avais vu pendant le confinement, parce que le premier confinement, on nous avait remontré énormément de matchs des années 80, des années 90, et je trouvais ça d'une lenteur, mais assez incroyable. Et ben là c'est pareil, j'ai l'impression qu'autour de Maradona, alors vous allez peut-être me dire que c'est parce que l'autre c'est un génie, mais je trouve que en face, putain les mecs, à part se jeter dans ses guibolles avec des crampons de 22, je trouve que les mecs, c'est un peu des piquets, ils tombent dans toutes les feintes et le football est lent et les terrains sont pourris, le ballon il rebondit 25 fois. Je trouve le football moche, je trouve que je m'ennuie. Ouais, Fred.
Ah ouais, mais si tu regardes bien les images, tu vois la pelouse, c'est ton jardin, il est meilleur, il est en meilleur état.
Mais
les ballons, c'est des boules de pétanque, c'est du plomb. D'accord. Et les caméras, la définition des caméras est pourrie. C'est filmé. T'as l'impression que c'est toi en vacances qui est en train de filmer Lucien. Et encore, ta caméra est meilleure. Donc si tu veux, c'est tout ce contexte, quoi. Donc effectivement, ça fait vieillot, les shorts qui collent le fessier du
classe.
Joueur.
Non, ça c'est classe. Par contre, moi j'écoutais encore donc tout à l'heure Estelle Denis, toujours la même, et la Minette te parle de OM, le match de Ligue des Champions. Et te dit c'est catastrophique. Enfin, autour de la table, il dit c'est catastrophique, c'est pourri, ça joue n'importe comment, machin. Ben, je peux vous jurer que moi, pour le coup, là, j'ai vu le match. Et attention, je suis pas en train d'encenser l'OM, dire que c'est l'équipe de l'année. Hein. Mais les mecs font un match. Ça va vite, c'est rapide, il y a peu de déchets techniques. Ensuite, en face, c'est meilleur. Ben, mais le football des années 86, 87, 88, voilà, les grandes années Diego, moi, je me suis plus éclaté devant ce match où on est en train de te pisser dessus, là, le OM Porto. Ben, je me suis plus éclaté à regarder ça qu'à regarder les plus beaux moments d'El Pibe de Oro, Gilbert.
Ouais, il y a quand même une grosse différence parce qu'après, ça a basculé dans les années 90. On sait que voilà, les mecs, ils sont devenus musclés d'un coup. On est devenus, on a des mutants. Bon, physiquement, c'est plus du tout pareil. Dans les années 80, tu as des mecs qui nous ressemblent. Ils sont comme nous, Platoche, Six. Là, maintenant, on a des mecs, je ne sais pas ce qu'ils ont gobé dans les années 90, tu vois, il faudra demander à Zidane et Deschamps. Et ben, voilà, je ne sais pas. Donc, c'est ça la différence.
On ne touche pas aux idoles. Ouais, et bah ouais, Fred, et puis on arrêtera.
Non, mais Gilles, il a parfaitement raison. Tu regardes Ronaldo au début de sa carrière et tu le regardes maintenant. Et déjà, tu te dis, il y a eu de gros efforts de fait au niveau de la préparation physique. Donc, c'est toujours la même chose. Pourquoi tu disais les gens pissent sur l'OM? C'est parce que c'est relativement aux autres. Il faut toujours comparer par rapport aux autres. Donc, Maradona, il dépassait les autres. Et effectivement, si tu le remets dans le contexte actuel, bah, tout va plus vite. Les gars sont plus affûtés, les préparations sont meilleures. Le jeu collectif, la préparation tactique est nettement meilleure et tout. Et puis, effectivement, avant, tu pouvais tomber sur un Yvon Leroux bah, qui avait deux parpaings à la place des Adidas. Ouais, et si tu veux, bah, maintenant, tous les joueurs savent jouer. Donc,
tout le monde sait jouer, tu as raison. On va conclure. Moi, je vais vous dire que la veille de son décès, donc, j'ai vu ce fameux reportage sur Canal+. Naples, c'est juste une folie incroyable, indescriptible. C'est de la folie totale. Je vous dis, il parle de ça avant sa mort. Évidemment, l'Argentine, c'est dingue. Et là, tout ce qu'on est en train de voir sur les processions dans ces deux lieux, moi je trouve ça juste hallucinant. Vous m'avez démontré que j'ai peut-être tort, messieurs, restez avec votre idole si vous le souhaitez. On passe à quelqu'un. La une de l'équipe, ils auraient pu la faire sur quelqu'un d'autre, au fait ils auraient pu la faire sur quelqu'un d'autre, parce que moi j'ai un énorme respect pour Christophe Dominici, qui nous a quitté également, alors pour d'autres raisons, malheureusement pour lui. Et on va commencer ce petit hommage, hein, si on peut se permettre de parler d'hommage, évidemment. Pas tout simplement, cette fameuse année 99 qui nous l'a peut-être à tous révélé comme un petit génie sur le terrain, cette fameuse remontée face aux Blacks, vous allez me citer, messieurs, les uns après les autres. Le 15 de France, quand vous vous plantez, vous dégagez. C'est Bébert qui démarre, il est en haut à gauche. Ensuite, c'est Gilbert, Fred et Eric.
C'est dur. Bébert, moi, je dirais, pour commencer, je dirais Bernat Sall.
Bernat Sall sur l'autre aile, ouais, tout à fait. Ouais. Gilbert.
Titou la maison.
Ouais, très bien. Titou la maison, charnière. Fred.
Fabien Galthié.
Galthié en charnière également. Eric.
Chabal.
Non, c'est pas l'époque encore. C'est... bon, t'auras un petit joker si tu veux.
Oh, merci, c'est gentil.
Continue à réfléchir. Vas-y, mon Bébert.
Dourt.
Dourt, il y est, oui. Oui. Il est centre. Gilbo.
Benazi.
Benazi qui est en deuxième ligne. Ouais. Fred.
Olivier Merle.
Merle, il n'y est pas. Et non, c'est pas lui le deuxième.
Non, il est dans le groupe. Hein. Il est dans le groupe, Olivier Merle. L'homme ennemi à l'époque, il est là. Hein.
Ouais. C'est toujours ça, toi, mon Fred. C'est toujours une porte de sortie. Je te dis qu'il n'est pas dans mon 15.
Bon, Benazi.
Benazi, c'est lui le deuxième. Ouais. Et cherchez pas sur Internet en même temps parce que ça va me fatiguer.
Non, mais attends, ça va pas ou quoi?
Non, mais je l'ai dit, Benazi.
Eric.
Est-ce que Ibanez était déjà?
Ibanez, excellent, capitaine, tout à fait, ouais. Bébert.
Moi, je tenterai du Pelousse.
Oui, Pelousse, il y est. Ouais, tout à fait. Pelousse, il y est. Ça me semble loin déjà, mais ouais, Pelousse, il y est. En deuxième ligne, évidemment. Gilbo.
Je tenterai en première ligne un Califano.
Oui.
Ah, eh ben non. Non. Moi, avec Ibanez, c'est deux joueurs, enfin un très méconnu. Je ne pense pas que vous le trouverez. C'est un Cédric Soulette.
Moi,
ça ne me parle pas des masses. Et de l'autre côté, par contre, vous pouvez trouver. Fred.
Ça vient pas. Un petit gros qui a été opéré, qui a été.
C'est Bébert qui lève la main.
Moi, je tente un Franck Tourneur, peut-être.
Ouais, Tourneur, ouais.
Bébert, il est du sud-ouest.
Bébert, il a tout. Et derrière, vous connaissez. Troisième ligne. Vous m'avez dit Magne, ouais. Qu'est-ce qu'il vous manque? Vas-y, Gilbo. Il vous manque un sélectionneur de l'équipe de France en troisième ligne.
Marc Cessillon.
Non. Ah non, c'est Marc aussi. C'est Lièvremont. Il y avait du Lièvremont. Il y avait du Entamag, il y avait du Dourt. Et Castagnette était sur le banc. Dominici, donc, petit ailier de poche hein, pour nos auditeurs, auditrices qui ne connaissent pas forcément. Petit ailier de poche. Et à l'époque, si vous connaissez un nom dans le rugby mondial, c'est Jonas Lemou. Et sur ce fameux match de 99, ils s'affrontent. Et moi, je me suis toujours demandé, dans le couloir, avant d'entrer sur le terrain, quand vous avez ces petits gabarits que sont Bernat Sall et que sont un Christophe Dominici, qui ont face à eux un Jonah Lomu, comment tu es dans le couloir? Est-ce que tu te pisses dessus? Est-ce que tu ne veux pas y aller? Ou est-ce que tu es gavé d'en fait et tu y vas quand même, quoi, Fred?
Bah, tu y vas à fond. Alors déjà, Dominici et Lomu, ils ne sont pas sur la même aile. Hein. Donc, ils sont
ouais, on est d'accord, mais bon, c'est
Bernat Sall de l'autre côté. Et ensuite, tu y vas parce que tu sais que Lomu, il ne défend pas du tout. Tu sais que si tu joues dans son dos, il ne se retourne pas. Par contre, c'est effectivement, si tu le prends en plein buffet, ben là, t'es mort. Mais alors, tu sais que tu ne vas pas défendre dessus. Hein. Sur Lomu, c'était toujours Benazi, Merle qui venait défendre sur lui. Et concrètement, je veux dire, tu sais que ta chance, c'est de jouer dans son dos. Alors, il ne faut pas oublier qu'à l'époque, Dominici est fabuleux. Il y a quand même un stratège monstrueux en demi-mêlée. Hein.
Oui.
D'accord.
Galtier et c'était le grand moment. C'est Gilbeau et Bébé ensuite, je crois.
Ouais, rapidement, j'ai lu hier soir là, Dominici raconte son match contre la Nouvelle-Zélande et le matin, il a fait une crise d'angoisse.
Ah bah tu m'étonnes. Ah oui.
Et donc il appelle son kiné et il dit et en fait et après il dit je suis arrivé hyper détendu. Alors, voilà, c'était.
Ouais, bah moi je veux bien l'entendre ça, hein, que tu fasses une petite crise d'angoisse avant d'aller sur le terrain, hein, Bébert.
Non, moi je pense que ces mecs, ils sont complètement barjots. Une fois qu'ils ont l'adrénaline, il y a Moscato qui disait, tu mettais dans une pièce de 10 mètres carrés Dominici avec 4 Golgothes, tu balances une banane, c'est Dominici qui prend la banane. Les 4 Golgothes, il est méminable. Le mec, c'était visiblement un fou. Et ouais, à côté de ça, tu avais un Richard Plourt. Ben, c'était le même, mais lui, en plus, il était solide.
Ouais. Donc
après, Jonah Lomu, chaque fois qu'il touchait le ballon, eh ben, tu avais systématiquement le troisième ligne qui voulait se détacher, tu avais Benazi qui se détachait, ils avaient un plan pour aller le contrer systématiquement, il avait deux, trois types sur la tronche. Voilà. Donc après, le danger, il venait effectivement des centres qui savaient que tout le plan, c'était contre Lomu, donc eux, les centres blacks, ils pouvaient effectivement prendre le trou parce qu'il y avait un plan anti-Lomu, mais après, c'était quand même compliqué.
C'est compliqué, tu m'étonnes. Mais donc toujours pour ceux qui regardent un petit peu le rugby, si vous jouez dans les petits niveaux, dans les petites divisions françaises, je peux vous dire que ces postes d'ailiers, si vous touchez trois ballons dans votre match, vous êtes déjà très très heureux. Hein, parce qu'avant que ça aille des avants au 9, au 10, au premier centre, deuxième centre et que ça arrive à l'aile, vous ne touchez pas une canette de votre match parce qu'il n'y a que des en avant. Et là, sur le haut niveau, c'est un petit peu les numéros 9 du football, c'est-à-dire que c'est un petit peu eux qui vont briller parce que c'est eux qui vont mettre les essais. Et quand on voit les appuis d'un type comme ça, les appuis d'un Dominici, les appuis d'un Bernat Sall, les appuis d'un Vincent Clerc, c'est d'une beauté. Et on te parle de French flair opposé à d'autres styles, mais là ça nous éclabousse à la tronche quand tu vois des appuis comme ça par rapport à un Jonah. Et je critique pas Jonah Lomu, hein, évidemment il avait ses qualités qui étaient énormes, mais un Jonah Lomu, ça va tout droit, ça défonce tout sur son passage et à l'arrivée c'est le meilleur joueur du monde. Un Dominici évidemment peut pas se permettre de faire ça, il va jouer sur ses feintes, il va jouer sur ses appuis, et c'est juste des joueurs extraordinaires qui font aimer ce sport là quoi.
Nous sommes bien d'accord, Benoît.
Nous sommes bien d'accord. Alors, pour rendre hommage un petit peu à ce poste si difficile, qui peut être donc si ennuyeux, mais où l'on brille, vous allez me citer tous les ailiers que vous pouvez connaître du 15 de France depuis 1987.
Ouf 87.
Alors, on va démarrer par Eric, parce que je sens qu'on va le perdre rapidement autrement.
Estève.
C'est avant 87, non, Estève?
Ah, c'est avant.
Le mec, c'est une légende déjà, le Eric qui nous citait. Non, je ne l'ai pas. Bébert.
La Gisquet.
Moi, j'ai commencé à regarder le rugby sur l'ère La Gisquet. Ouais. Et c'était vraiment la référence de l'ailier pour le coup. Donc, c'est 87 et après, l'époque Didier Cambé. Mon Gilbeau.
Vincent Clerc.
Ouais, Vincent Clerc. Alors, même profil un petit peu que les Dominici en plus fin. Oui. Des appuis de cinglé et des vitesses de dingue, quoi. Fred.
Teddy Thomas.
Ouais, Teddy Thomas. Plus gaillard, plus des profils, profil et ça avance, quoi. Mais ça, c'est pareil, hein, c'est des feintes de corps de dingue, le Teddy Thomas aussi, pour l'arrêter, c'est de la folie. Eric.
Allô, je vous entends plus. Non, non, j'ai personne. J'ai plus vieux, par contre. J'ai Aguirre. C'est encore plus vieux.
Aguirre.
Bébert connaît.
En 1515.
En 1515.
Émile Ntamack.
Ah, Ntamack, ouais.
Ntamack, il a joué à l'aile, c'est sûr.
Il a, ouais. Au ouais.
début. Ah, si.
Ouais.
À l'entraînement.
Sans l'entraînement, c'est vrai, c'est vrai.
Ah, je donne.
Tu te battais qui, toi, Gigbo, pour donner? C'est moi, le patron. Hein. Donc, à toi, là.
PSA.
Ah oui. Ah oui, c'est
bah,
bien.
Putain, bah oui, c'est bien. Il est connu pour ce poste-là, PSA.
Bien sûr, il jouait là, le Goré. Il jouait bah. À l'aile. Il a joué qu'à l'aile, le Goré.
Tu crois qu'il jouait où, toi?
Ah ouais.
Quand...
Philippe Saint-André, je dis ça pour Eric.
Ouais, Fred.
Non, j'ai pas reconnu.
Bah, Bernard Salle, on en a parlé tout à l'heure.
Bernard Salle, fabuleux. Jonas Lomou a dit de lui, il court comme souffle le vent. Je pense que c'est un bel hommage de la part de l'ex-meilleur joueur du monde. Il y avait Johan Huger, que j'apprécie particulièrement également, et plein d'autres, bien sûr.
Jean-Maxime Médard.
Ah, Maxime Médard. Médard.
Jean-Baptiste Lafond.
Mais ça pose, alors là, malheureusement, vous le savez peut-être déjà, mais c'est un suicide hein, de la part de Dominici. Ça pose évidemment la grosse question des postes carrière chez les sportifs de haut niveau, cette chute d'adrénaline, cette chute médiatique, cette où on se retrouve tout seul. Si on n'a pas la chance d'avoir une famille bien structurée, ça doit être extrêmement dur. Si on n'a pas la chance d'avoir des gens qui nous encadrent, ça doit être très, très dur. Donc, moi, j'ai envie de vous poser la question, est-ce qu'un club… Alors qu'on parle foot, on parle hand, on parle tout ce que vous voulez, hein. Est-ce qu'un club professionnel se devrait pas de gérer une carrière de A à Z? Et quand je parle de A, c'est les gamins qu'on est en train de recruter à 12, 13, 14 ans et qui, à qui on fait miroiter des choses extraordinaires et qui peut-être derrière vont se casser la jambe et disparaître et pour eux, la vie va être dure. Donc, ce serait de gérer leur vie depuis leurs 13 ans bah, jusqu'à leurs 60 ans ou 75 ans ou jusqu'à leur mort parce qu'un sportif de haut niveau, ce n'est pas que 15 ans. C'est Bébert et après Fred.
Non, moi concernant Dominici, c'est pas le… Lui, il fait partie et c'est le tout début du professionnalisme. C'est-à-dire que tous les gens de sa génération… Ce sont des gens qui ont eu l'opportunité de faire des études et de préparer une post-carrière. Donc, Dominici, à l'heure actuelle, effectivement, on peut se poser la question. Mais à l'heure actuelle, tu as tous les jeunes qui sont en équipe de France, qui ont fait partie de centres de formation, qui ont quand même des liens étroits avec l'éducation nationale. Donc, à l'heure actuelle, ils peuvent avoir des formations. Sauf que c'est très compliqué.
Ah bah, arrêtez, bébé,
d'allier,
ah
bah. C'est très compliqué d'allier les deux. Tu ne peux pas faire les deux choses à fond. Mais un du sautoir à l'époque, il finit ingénieur quand même.
Non, mais d'accord, Bébert. Et tu vas nous citer, des mecs qui sont ingénieurs, des mecs qui me ça. Ok,
à
donc prends.
Tu pouvais le faire. Maintenant, non. Maintenant, c'est.
Eh ben, prends 300 footeux professionnels. Dis-moi, il y a combien d'ingénieurs? Dis-moi, il y a combien de machins? Si tu as la chance d'avoir des pieds en or, et pour eux, si tu as les chances d'avoir des mains en or, ben, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont prendre le temps de passer un diplôme d'ingénieur. Ils vont se concentrer sur leur carrière qui va durer 10 ans, qui va durer 2 ans si tu n'as pas de bol. Que tu as le gros pet et derrière, bah malheureusement, il n'y a plus grand monde. Fred.
Ah, est-ce que tu dis c'est beau dans le meilleur des mondes que le club s'occupe du jeune de 6 à 66 ans, mais encore faudrait-il que le joueur il reste dans le club. Le problème, c'est que dans certains sports, le gars il reste un an et demi ou deux ans dans le club, puis il se tire parce qu'il profite d'une opportunité et tout. Donc, c'est très, très dur pour les clubs de mettre des choses en place parce que tu ne peux pas pérenniser, quoi. Donc ça serait très bien si effectivement, comme ça se faisait quelquefois, notamment dans le rugby, où des gars restaient très très longtemps dans la même structure et tu te dis ils peuvent être accompagnés, et c'est ce qui se faisait en général. Et ils sont, ils vont être entraîneurs des jeunes ou ils vont être… Mais maintenant, dans plein de sports, les gars, ils sont là 2 ans, ils prennent l'argent, ils s'en vont ailleurs et tout…
Oui, mais donc c'est le club d'après qui prend la
suite. Ouais, mais le club d'après, il récupère un gars qui va rester que 2 ans, qui va…
Ouais, mais je trouve que ces drames-là, et on en entend quand même beaucoup, alors ça c'est pareil, c'est dans le basket américain, ils te disaient, donc il y a un pognon évidemment monstre dans le basket américain, ils te disent que 50% des basketteurs, 6 ans après leur carrière, 6 ans après la fin de leur carrière, sont ruinés. 50%, 1 sur 2 est ruiné. Ça veut dire que ces types-là font n'importe quoi. Ces types-là vivent pas sur la même planète que nous. Et ça va t'engendrer évidemment des dépressions, mais abominables, et arriver à des cas comme le pauvre Dominici. Eric?
Ouais, c'est souvent leur entourage aussi. Hein. Ils s'entourent mal, et puis ils ont beaucoup d'argent, ils attirent beaucoup de monde. Donc derrière, s'ils n'ont pas la tête sur les épaules, ils se retrouvent des fois avec des loulous autour d'eux. Et puis malheureusement, les escrocs, il y en a partout, et qui sont victimes de ça aussi. Hein.
Très certainement. Donc, du coup, par rapport à ce que tu disais, Fred, sur le fait de, est-ce qu'un club qui récupère un joueur 2 ans, est-ce que c'est à lui de gérer ? Non, non, certainement pas. Par contre, on parle énormément depuis des années et des années des agents. Et c'est pareil, ce rôle très controversé de l'agent. Est-ce que l'agent, ça ne devrait pas être son boulot de prendre le gamin de 13 ans à 70 ans et d'aller jusqu'au bout de sa tâche ? Parce que sa tâche, elle ne s'arrête pas à la fin de la carrière du mec. Sa tâche, elle s'arrête à la fin de la vie du mec. Parce que la vie du mec dépend, l'agent dépend de ce mec, Fred.
Bah si, c'est la réalité. Il y a pas mal d'agents qui sont réputés pour ça, pour accompagner, d'avoir vraiment un projet avec le jeune. Et pas uniquement sur la partie, si on parle de footballeur, juste sur le football et tout. Donc, je pense qu'il y a des agents, des structures qui le font bien, ça.
Ouais, Bébert.
Ouais, moi, je considère que moi, un club, effectivement, se devrait de proposer une formation en plus du rugby. Après, qu'est-ce que tu veux qu'un club aille gérer quoi que ce soit ? Une fois qu'il est parti du club, le gars, il est parti, point. Donc, effectivement, dans les contrats, il pourrait faire des contrats où, en plus des entraînements, eh bien, ils ont une formation quelconque dans je ne sais pas quel domaine. Certes, ça, je pense, c'est quelque chose qui peut être faisable. Mais derrière, accompagner le gars, lui proposer des trucs jusqu'à 70 ans, mais enfin, c'est pas leur femme, c'est pas leur père. Enfin, faut arrêter.
Mais attends.
Les entreprises, elles font ça, faut arrêter aussi.
Et toi, tu vis dans quel monde où t'es prof comme nous, Bébert. Et tu sais très bien que nos élèves, pour la plupart, déjà, ils en ont rien à branler. Si t'as la chance, comme je disais, d'avoir des pieds en or.
J'arrive à les intéresser, Benoît.
Ouais. si t'as la chance d'avoir des pieds en or ou des mains en or et que t'es recruté par un centre de formation, machin, bon, tes études, je pense pas que ça va être ta priorité. Hein, ou alors je me trompe.
Non, mais Bébert, elle a raison. C'est aux parents d'accompagner, c'est pas au club.
Mais si, c'est au club. Le club, c'est toute sa vie. Enfin, le foot, c'est toute sa vie. Et ça doit comprendre. Mais comme un prof, on va reprendre à ce qu'on connaît un petit peu mieux. Quand on arrête notre carrière, c'est dur. C'est dur. On dit tous la retraite. Mais merde, tu te retrouves, t'as plus ton public, t'as plus ta vie de collègue, t'as plus ton machin. Ben moi, je m'imagine, j'ai une trouille monumentale de la retraite.
Gestionnaire, il n'y a pas de souci.
Gestionnaire, t'es avec des pourvus dans cette profession. Ouais, Fred.
Ouais, après, ça dépend des sports aussi, parce que tu as un exemple, quand même, un sport qui est très très bien au niveau. Je veux dire, tu prends le cyclisme, en général, les cyclistes. Alors c'est vrai qu'ils ont le temps de réfléchir sur leur vélo, c'est ce qu'ils disent souvent. Hein. Mais en règle générale, c'est des gars qui gèrent plutôt bien. Et aussi parce qu'au point de départ, il n'y a pas énormément d'argent, donc ils sont obligés de faire attention.
Ah oui.
Et tu sens les gars, sans forcément avoir un niveau scolaire phénoménal, mais les gars, ils ont déjà un peu plus de réflexion, de maturité vis-à-vis justement de la pré-carrière, quoi.
Mais comme tu disais, ils ont le temps de réfléchir sur le vélo. Messieurs, on ne va pas conclure sans Gilbo, tu voulais peut-être.
Ouais, juste une question, parce que Dominici, c'est un suicide. Est-ce que Diego, c'est pas aussi un petit suicide ?
Bravo Gilbo, toujours là pour nous faire réfléchir. On est, alors pour le coup, là, c'est pas un suicide. On perd également Jacques Secrétin. Donc là, c'est pareil hein, pour nos auditeurs qui ne sont pas forcément spécialistes. C'est un pongiste. Le pongiste, c'est le tennis de table, bien sûr. Et dans mes années, moi, donc 90 et ainsi de suite, quand on citait un nom du tennis de table, on citait évidemment ce nom un petit peu spécial de Jacques Secrétin. Donc croyez bien, quand vous lisez un petit peu les palmarès, croyez bien que c'était l'idole de son sport, française en tout cas évidemment, hein, puisque maintenant c'est vampirisé par tout ce qui est Chine, c'était l'idole française de ce sport et on perd un très très grand monsieur du sport français. Non, ça ne vous intéresse pas le tennis de table. Fred.
Si, puis lui il avait su faire aussi quelque chose bien, c'est qu'il avait une vraie filiation avec Jean-Philippe Gatien. Donc il y avait une vraie transmission, c'était un petit peu, ça faisait un peu rêver ou c'était idéalisé, c'est qu'il y avait une suite et dans le style filiation avec amélioration, parce que Gatien avait réussi à être champion du monde, ce que n'avait pas pu faire Secrétin, et avait été vice-champion olympique. Donc c'était vraiment la progression du tennis de table, et puis malheureusement depuis, ça a complètement périclité, quoi.
C'est dur d'exister, ouais. C'est Eric et Gilbo.
Je crois qu'il a été champion du monde quand même. C'était okay. Juste une.
En double mixte.
Ah, c'est là qu'il est bon.
Tony Gaskin, c'était en individuel, donc ça n'a pas la même portée, quoi. Ah.
Gilbo.
Ouais, moi, ce qui me choque, c'est que ce crétin, bah, c'est devenu une idole complète dans le Nord-Pas-de-Calais. Là.
Ah là, né à Carvin, en plus, juste un truc, c'est qu'il a quand même fréquenté mon lycée.
Ouais, ouais.
Extraordinaire quand même, anecdote. Ouais.
Bah, moi, ma mère a du 13 octobre, c'est dingue.
Ça me choque vraiment qu'un mec comme ça, c'est devenu une idole dans le Nord-Pas-de-Calais. Quoi. L'équipe pour devenir une idole, c'est
dingue. Et il a failli être recruté au Versailles aussi. Hein. Ça, c'est une autre anecdote.
Cher Lavallois, figurez-vous qu'il était venu il y a 3 ans. J'ai eu la chance de jouer contre lui sur la place du château, puisqu'il y avait exhibition de tennis de table avec différentes formes de tennis de table sur des tables biscornues, machin, pour essayer tout simplement de démocratiser ce sport-là. Et il était là. Ouais. Et donc l'idole du tennis de table français, bon, pas mondial évidemment, mais au moins français, était là et échangeait des balles tout naturellement avec nous. C'était un vrai petit plaisir. C'était un vrai petit plaisir. Merci beaucoup à lui. Et une fois de plus, on rend hommage comme aux deux autres, bien sûr. Eric ?
Ouais, on parlait de reconversion. Après sa carrière, il faisait un peu des shows avant Yannick Noah. Alors, il faisait un peu des exhibitions avec un autre pongiste qui s'appelait Vincent Purcard.
Et, ah d'accord.
Ouais, il remplissait des salles, il faisait des spectacles pour la télé ou des choses comme ça, mais c'était sympa. Alors, il jouait avec des poêles, il jouait avec sur une mini-table, il se faisait des smatchs, il se mettait à 15 mètres de la table, il remettait tout, il en mettait 50 de suite. Ouais. Et nous, qui jouons en vacances, au camping, au ping-pong, là, voilà, on dit, punaise, on aurait bien aimé faire un dixième de ce qu'ils étaient capables de faire. C'était quand même poêle, monstrueux, quoi. C'est un niveau technique, c'est du grand champion. Hein.
Et son camarade, c'était Mansour Barami, non ?
Ouais, c'est ça.
Alors, le tennis de table, je ne sais pas si vous jouez un peu, messieurs, là, je crois que Gilbo est un peu spécialiste. Ça fait partie de ces sports, un peu comme le tennis. Je pense que si vous jouez à un spécialiste, vous ne voyez rien. Vous ne voyez pas la balle. Vous faites zéro, évidemment, vous allez mettre 0 points, mais vous ne serez même pas foutu de faire un demi-échange. Et c'est absolument hallucinant, les mecs qui savent frotter une balle de tennis de table, ce que ça peut donner. Fred ?
Ouais, déjà, tu n'arrives pas à mettre un retour de service.
Ah ben ça c'est sûr, c'est impossible. Et le seul sport de raquette peut-être où on peut jouer contre un champion, c'est le badminton où au moins on peut servir. Parce que les autres, le tennis de table, c'est sûr qu'on met 0 point. C'est dur pour nous à dire qu'ils sommes quand même des sportifs confirmés. Messieurs, des vraies et fausses règles de tennis de table, on y va, Eric.
On joue en 21 points.
Voilà, donc ça, c'est fini, messieurs, depuis 1999. On joue en 11 points maintenant. Franck, donc quand vous jouerez, chers auditeurs, dans votre garage, arrêtez de compter jusqu'à 21, c'est jusqu'à 11.
Ah bon ? Je vais peut-être dire une connerie. On ne gagne des points que quand on sert. Ça, c'est
faux. Non, faux. Ça, c'était le volet. Alors là, il y a longtemps. Gimbo. Alors, des petites règles de camping. On croit toujours que c'est vrai, ces règles, elles sont fausses. Gimbo.
Ils ont changé la taille de la balle.
Ouais, d'accord. C'est pas tout à fait ça, mon jeu, mais c'est pas grave. T'as raison.
Ça fait pas de réglementation, là.
Non, tout à fait. C'est bien ce que tu fais, quand même, mon ami. C'est bien. Fred.
On a 5 services consécutifs.
Oui, c'est fini tout ça. C'est 2 services maintenant. Maintenant, on joue en 11 points et c'est 2 services chacun. Enfin, 2 services de suite chacun, qu'on gagne ou qu'on perde. Eric.
3 nets d'affilée, point pour l'autre.
Voilà, ça c'est la bonne réponse. Très bien, Eric. Mais oui, il y a plein de gens qui jouent comme ça. Ah ben, il y a 3 nets, point, machin. Mais non, tu peux faire 15 nets de suite, il n'y a pas de souci. Net, c'est filé. Voilà, c'est bien. Quelqu'un avait autre chose à ajouter ? Non, peut-être pas. Vous avez été très bien sur ce petit jeu. Messieurs, nous n'avons pas le temps de parler Vendée Globe. C'est bien dommage parce que je suis en train de revenir sur la Virtual Regatta. Gilbo, je sais que tu es passionné. Malheureusement, je dis ça avec, bien sûr, beaucoup de second degré, personne n'est mort, donc on ne peut pas parler encore du Vendée. Toujours est-il qu'on fera, bien sûr, une page beaucoup plus longue dans 2 semaines sur Sport Épique, chers auditeurs, vous qui êtes passionnés de cette émission. On va remercier, bien sûr, notre ami du Sud-Ouest qui nous a fait ce plaisir. Merci, Bébert. On espère, bien sûr, te retrouver.
Je fais très bientôt. Un plaisir de participer à cette émission.
S'il en est.
Avec vraiment des discussions très, très intéressantes et des chroniqueurs qui ont des choses à dire. Voilà. Donc, un animateur hors norme. Voilà.
Bon, c'est un très bel hommage. Je te remercie. On verra plus tard pour le petit salaire. Merci, Eric. Eric, et je te remercie puisqu'on on se rappelle qu'on avait eu Eric il y a 15 jours qui nous parlait de son excellent livre sur le Touquet. Eh bien, figurez-vous, messieurs, qu'il me l'a tout simplement offert et dédicacé. Je suis aux anges. Je vous le prêterai si vous êtes sympa. Merci, mon Fredo. Merci, mon Gilbeau. Joël, c'est bon, c'est terminé. On te remercie beaucoup. On salue tous nos auditeurs. On vous souhaite un excellent dimanche et à dans 15 jours. Ciao tout le monde.
Salut.
Salut.
Si tu nous remets du Diego, ce serait pas mal. Si yo fuera Maradona, viviría como es. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido cualquier lugar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Cohete mil amigos, lo que venga 1000%. Si yo fuera Maradona, saldría a Mondiovisión pa' gritarles a la FIFA que ellos son el gran ladrón. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba, toda tuya, nene, suéltala, toma. Dale, toca bola. Ahí te va, síguela. Esa. Si yo fuera Maradona, viviría como es, porque el mundo es una bola. Que se viva flor de piel. Si yo fuera Maradona y un partido que gana. Si yo fuera Maradona y una mano en el altar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola.